are you today?
Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 63, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je fais un débrief avec Sofiane Sehili. Comme vous le savez très probablement, Sofiane était au départ de la Hope 1000 en Suisse. Nous sommes jeudi et il est 11h, Sofiane a passé la ligne d'arrivée à peu près il y a 24h ou un tout petit peu plus. Et donc, comme toujours, c'est avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité que nous allons revenir sur cette épreuve. Sans plus attendre, donc, Sofiane Sehili. Allô ?
Oui.
Ah, dis donc, ça y est, miracle.
Eh ben, on en a eu du mal. Hein.
Oh là là, et ça fait au moins 10 minutes qu'on s'acharne à essayer de se parler. On n'a jamais autant souffert.
Ouais.
Alors, comment vas-tu ?
Écoute, je suis quand même fatigué. Hein.
J'ai l'impression.
Ouais, je suis fatigué, j'ai un peu de mal à récupérer, j'ai un peu mal partout.
Ouais.
Je suis content que ça finisse.
Bah, tu sais quoi, ne le prends pas mal, mais je suis content d'entendre dire ça pour une fois. Parce que
ouais.
Ça change.
Non, donc, je le prends pas mal.
Donc ça change, ça fait de nouvelles choses à discuter. J'ai l'impression que t'es arrivé, on va attaquer d'emblée, hein, parce que maintenant on se connaît, donc puis tout le monde te connaît aussi, donc on va pouvoir y aller direct. J'ai l'impression que t'es arrivé un petit peu moins bien préparé et avec un petit peu moins focus que sur l'Atlas.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors forcément, je suis arrivé moins bien préparé aussi, puisque
ben oui.
En raison du confinement,
bien sûr.
Je n'ai pas pu m'entraîner correctement. Mais c'est vrai que je suis aussi arrivé moins focus. Je pense que j'ai péché probablement par orgueil. Je pense que je me sentais tellement fort après l'Atlas que j'ai regardé un peu la liste de noms qu'il y avait, que j'ai pas vu de gros noms.
Ouais.
Et donc je me suis dit que logiquement c'était moi le favori et que il suffisait pour moi de faire les choses bien pour gagner et c'est vrai que je suis pas arrivé avec la même pression que quand j'arrive à l'Atlas, que je vois James Hayden, que je vois Peter Vary, que je vois Jonathan Rankin, Christian de l'ancien pro, tout ça, je me dis là il y a quand même vraiment un gros niveau, il faut j'ai pas le droit à l'erreur, il faut que je sois au top et 48 premières heures sur l'Atlas, je me souviens que j'étais vraiment extrêmement concentré et que je faisais tout bien avec beaucoup de détermination et d'efficacité. Mmh. Et là, c'est vrai que dès le début sur la course, j'ai senti que j'arrivais moins à me discipliner et la discipline pour moi c'est très important parce que je suis pas celui qui roule le plus vite. Mais je suis celui qui s'arrête le moins et pour pas s'arrêter il faut se discipliner, il faut s'organiser et si je commence à perdre cette discipline qui est mon principal atout, c'est problématique. Donc c'est vrai que je me suis senti à la fin de la première journée, j'avais pas énormément de retard, mais je me suis dit bon voilà, t'as pas pris un super départ, t'es pas bien dedans, j'étais pas fier de ma première journée. Ouais.
C'est une sensation, donc il n'y a rien d'objectif ou de tangible, mais en voyant tes activités tous les jours sur Strava, en voyant tes photos de pizza, je me suis dit, tiens, il est dans un état d'esprit où il a le temps de synchroniser ses activités Strava, il a le temps de s'arrêter manger une pizza et de prendre une photo, et je me suis dit, tiens, il a l'air moins, comme on dit en anglais, mission focus, que sur l'Atlas, en fait. C'est complètement subjectif, mais c'était l'impression que ça donnait, finalement.
Ouais, c'est vrai que j'ai arrêté toutes les updates Instagram les 48 dernières heures. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que tu t'arrêtes pour prendre des photos. C'est pas un arrêt de 10 secondes pour prendre une photo qui fait une différence, c'est sûr. Tu vois. Mais Clairement, si tu t'arrêtes pour prendre des photos, c'est que, en effet, t'as l'impression d'avoir le temps d'en prendre. Ouais. Alors que concrètement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout en train de rattraper mon retard et que donc même ces 10 secondes que je prenais avant pour m'arrêter pour prendre une photo, eh ben j'allais plus les prendre parce que c'était pas nécessaire. Ouais, je pense que je suis. Ouais, je suis pas arrivé. Malheureusement, je suis pas arrivé avec le même état d'esprit ici. Et je, ouais, c'est ça. Je me suis dit, il suffit que je fasse les choses correctement pour gagner. Mais en fait, pour gagner là, il aurait fallu les faire parfaitement. Si j'avais été aussi concentré et discipliné que dans l'Atlas, j'aurais peut-être pu à un moment rattraper Jochen, mais sans faire la course parfaite, c'était pas possible de la gagner celle-là.
J'ai l'impression, et toi, moi et bien d'autres, que le confinement nous a fait beaucoup de mal en termes de motivation. Et on a, en étant obligé de s'arrêter de rouler et en essayant tous désespérément de maintenir notre condition physique, on a perdu énormément de jus mental, si on pourrait dire. Et au moment où on a été déconfiné, au moment où on aurait pu rouler, au moment où on aurait pu vraiment lâcher les gaz, eh ben, on n'avait plus envie. Est-ce que ça participe un petit peu à cette sensation que tu as aujourd'hui ?
Non, je n'ai pas vraiment vécu les choses comme ça. Je dois avouer que quand on s'est déconfiné, je me suis remis quand même à rouler assez sérieusement, en faisant au moins 100 mètres par jour et en plaçant des 200, des 250 ici et là. Donc j'ai pas non plus eu du mal à reprendre le vélo sérieusement.
Ouais.
Je peux pas blâmer le confinement pour ma seconde place sur la Hope 1000. Je pense vraiment juste que j'ai pas eu le bon état d'esprit sur cette course-là et que j'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé à la fois Jochen et à la fois Marcus. Et ça, je peux m'en prendre qu'à moi-même, au final.
Je te sens déçu comme, bah, évidemment, comme jamais je t'ai entendu déçu parce qu'à chaque fois, tu reviens d'une victoire, donc, voilà. Et là, je te sens déçu. Et la dernière fois, après l'Atlas, tu m'as dit, j'ai envie d'être devant et j'ai envie d'honorer pas la confiance, mais aussi les encouragements que mes amis de Paris, les messengers, que la famille, ta famille, met en toi. Et là, tu te sens comment? Je te sens super déçu.
Oui, je suis déçu. Mais
mais il y a la fatigue aussi, peut-être.
C'est un sentiment assez bizarre parce que j'ai pas non plus l'impression d'être passé complètement à côté de ma course, quoi.
Ah bah non.
Je veux dire, si on regarde avant cette année, le record de la course était 4 jours et 5 heures.
Ouais.
Je fais 3 jours et 19 heures. Donc, c'est-à-dire que je mets 9 heures de moins que le précédent record. Sachant que c'est la première fois que je participais à cette course. Sachant que c'est une course qui est plus technique que les autres auxquelles j'ai participé et que moi, la technique en VTT, c'est pas du tout mon fort. Donc, j'ai pas l'impression, en effet, d'avoir fait une mauvaise course, quoi.
Ah mais t'as pas fait une mauvaise course, au contraire.
Mais je peux pas non plus être content, tu vois.
Ouais.
Je peux pas me dire. Je veux dire, je comprends ce qui s'est passé. Je m'incline devant quelqu'un qui a été plus fort que moi. Je peux pas dire. Je peux pas avoir d'excuses. Lui-même, à la rigueur, il pourrait avoir une excuse puisqu'il a eu. Il a eu un accident. Il a dû changer de vélo. Il a fini avec un VTT à lui avec des freins Vebrek, tu vois. S'il avait perdu, il aurait une excuse, quoi. Mais moi, j'ai perdu sans avoir d'excuses. Donc oui, il y a forcément de la déception parce que je viens jamais pour finir deuxième. Mais après, c'est pas non plus que de la déception. Je veux dire, je me disais que j'aimerais bien venir sur ce parcours pour faire moins de 4 jours. Je viens et je fais beaucoup moins. Je mets quand même 5 heures à la barre des 4 jours. Donc voilà, je me dis que c'est pas si mal et que vu les difficultés techniques qu'il pouvait y avoir en termes de VTT, le fait que je suis pas un VTTiste à la base, peut-être que c'est ça aussi, et que même si j'aspire à être le plus fort, et ben il y aura des événements, des parcours sur lesquels mes lacunes en termes de technique ne pourront pas être rattrapées par mon expérience, ma gestion du sommeil et ma détermination.
Est-ce que ça va orienter justement ton choix de course pour prendre des courses qui sont vraiment typées pour toi en fonction de tes points forts, ou est-ce que tu vas au contraire essayer d'améliorer pas tes lacunes, mais de par exemple travailler à la technique VTT?
Je dois avouer que si je suis venu ici en Suisse, c'est évidemment parce que c'était une solution de repli. La première qui s'est présentée suite à l'annulation de toutes les courses qui a eu lieu pendant la pandémie, j'ai vu cette opportunité-là. D'ailleurs, je remercie Adrien Lichty qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Bah mon gars, il va y avoir une course, c'est la Hope 1000 voilà quoi. Si la frontière est ouverte, viens. »
Ouais.
C'est ce que j'ai fait et je suis content de l'avoir fait parce que même si ces courses-là, je pense que je les aime passionnément, que je les déteste à la fois. Je suis content de les faire et je suis content quand elles sont terminées. Mais oui, à la base, je sais pas si c'est une course que j'aurais faite si ça avait été dans d'autres circonstances.
Ouais.
En effet, il y a pas lieu pour moi de venir sur des parcours aussi techniques, en fait. Un parcours comme celui de l'Atlas, par exemple, qui est cassant mais qui est pas technique, qui est orienté gravel dans le sens où bah voilà, il y a pas besoin de naviguer des petits single track ou alors assez rarement, ça me correspondait bien, quoi. Après, c'était en effet, je pense, la meilleure solution d'aller sur la MR avec un VTT. Mmh. C'était pas un parcours qui nécessitait d'avoir de grandes qualités de VTTiste.
Ouais.
Donc c'est vrai que je à l'avenir, je pencherai plutôt pour des... Alors, je resterai sur du off-road principalement, pas exclusivement, mais principalement sur du off-road, en évitant tout ce qui est trop technique, tout simplement parce que dans la mesure où moi c'est pas quelque chose que je maîtrise, c'est pas des choses que je prends plaisir à faire, quoi.
Ouais.
Et habitant à Paris, ce serait compliqué pour moi de m'entraîner et à aller faire du petit single track, des descentes casse-gueule, tout ça. Donc je suis content d'avoir fait cette course parce qu'elle est extrêmement dure, enfin vraiment très 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 dure, et je pense que c'est la seule au monde qui offre un dénivelé aussi délirant que 30 000 mètres sur 1000 km, et c'est toujours intéressant de se lancer ce genre de défi, de se dire bah ouais tiens, je vais faire ça parce que c'est monstrueux. Donc je suis content de l'avoir faite, mais en effet, ce genre de parcours technique, c'est pas du tout ce que je vais privilégier à l'avenir.
Tu n'avais pas envisagé de faire la Highland Trail en Écosse ?
J'avais envisagé de faire la Highland Trail en Écosse, mais j'avais pas envisagé de la gagner, en fait.
Ouais.
Ouais. Et alors oui, c'est vrai que la Highland Trail, c'est en effet très technique. Mais c'est plus vraiment une envie d'aller là-bas, quoi.
Ouais, une envie d'Écosse plutôt.
C'est tous les gens que je connais qui ont fait cette course-là et qui en reviennent changés et qui me disent mais c'est dingue que ce soit Clément Stavicki de Lille, que ce soit Josh Hibbett, que ce soit James Hayden, tous les gens que je connais qui ont fait cette course. Ils me disent c'est un endroit complètement fou. Alors c'est une course qui te casse en deux, hein.
Ouais.
Mais c'est un endroit complètement fou et qui va te hanter toute ta vie. Josh Hibbett, il m'a dit, moi quand je l'ai faite, j'avais roulé en Nouvelle-Zélande il y a peu de temps avant, et je m'étais dit mais la Nouvelle-Zélande c'est incroyable, c'est le plus beau pays du monde, et je suis arrivé en Écosse et là je me suis pris une claque encore plus grande, quoi. Et La Highland Trail, en effet, j'ai envie de la faire, mais à aucun moment, quand j'ai envisagé de la faire, je me suis dit que j'allais la gagner.
Pourquoi? Parce que c'est trop technique, justement?
Parce que je sais que c'est très technique. James m'a dit, James m'a dit, là, ouais, voilà, c'est pas l'Atlas, c'est pas l'Italy Divide. Enfin, il faut vraiment de la technique, et puis tu vas beaucoup marcher, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est une course où apparemment ça Samuel, faut aimer la marche. Ouais.
Samuel, qui l'organise la French Divide, ouais, qui l'a faite aussi, m'a dit, ouais, tu vas marcher. Prends des bonnes chaussures.
Tiens, en parlant de Sam, ça t'intéresse pas de faire la French Divide?
Alors, ça m'intéresse de la faire cette année, bien sûr, ouais, puisque... Ouais.
Bah oui, il n'y a pas beaucoup de courses.
Le contexte étant ce qu'il est, il faut essayer de trouver des défis près de chez soi, hein.
Ouais.
Et on peut pas envisager d'aller aux États-Unis. Je pense que toutes les courses, en fait, qui nécessitent de prendre un avion, je dis pas que c'est impossible, j'espère sincèrement, par exemple, que la Silk Road va avoir lieu, je pense pas la faire, mais j'espère sincèrement, déjà pour Nelson qui l'organise, oui, et après pour tous les gens qui souhaitent y participer, j'espère vraiment qu'elle va avoir lieu. Voilà, moi je regarde les choses d'une manière pragmatique, et je me dis, quelles sont les courses auxquelles je peux participer, qui sont près de chez moi, hop, je prends un train et j'y suis. Donc là, c'était la Suisse, c'est à côté, la French Divide, en effet, c'est le départ, il est à 200 km de chez moi. Donc cette année, c'est la bonne, ouais. Moi, j'ai dit à Samuel, si la course a lieu, je serai là.
Ouais, cool. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis l'Atlas, en termes de rythme professionnel, de vie avec tes sponsors? On en avait parlé la dernière fois.
Tout a changé, hein. J'ai eu une exposition énorme suite à mon résultat sur l'Atlas.
Ouais.
J'ai été contacté par énormément de marques. Les marques avec lesquelles je travaillais déjà ont décidé aussi de m'apporter davantage de soutien. Donc, je suis pas encore bikepacker professionnel, mais sincèrement, je suis pas très loin. Disons que j'ai plus besoin d'acheter quoi que ce soit en rapport avec le vélo.
Ouais.
Si j'ai besoin de pièces, de cadres, de roues, d'accessoires, de pneus, de vêtements, tout ça, j'ai pas vraiment besoin d'en acheter. Il suffit que je demande. J'ai des sponsors pour à peu près tout maintenant. Et j'ai aussi l'occasion d'avoir un petit peu d'aide sur les courses. Sous forme de défraiement. Donc ouais, là par exemple quand je me déplace sur la Suisse, ce qui est bien pour moi, c'est que ça me c'est pas de l'argent qui sort de ma propre poche. Et oui, c'est une situation qui change complètement de ce qui se passait avant. Alors c'est vrai, quand je suis rentré de l'Atlas, quasiment immédiatement on s'est retrouvé confiné, et je pouvais, de toute façon, j'aurais de toute façon pas pu travailler, mais c'est vrai que maintenant je peux faire un peu plus ce que je veux. Si je préfère aller m'entraîner à la campagne que m'entraîner en étant coursier, c'est une opportunité que j'ai, parce que j'ai moins besoin d'aller gagner ma croûte à côté pour soutenir ma passion de faire des courses de bikepacking.
En termes de communication sur les réseaux sociaux, est-ce que ça a changé un petit peu ta manière de communiquer sur Insta, par exemple?
Un petit peu, oui. Alors forcément, il faut. Je pense que les gens comprennent que quand des athlètes sont soutenus par des marques, et ils sont pas soutenus par des marques pour le plaisir et pour l'honneur que c'est pour eux d'être associé à un athlète. Les marques soutiennent des athlètes pour avoir de la visibilité. Donc moi, quand on me donne des produits ou qu'on me rémunère, derrière il y a quand même
une contrepartie,
une attente de la part de la marque d'avoir une certaine visibilité. Donc j'essaye j'essaie quand même d'offrir de la visibilité à mes sponsors. J'ai la chance d'avoir des sponsors assez cool qui sur lesquels on a pas non plus un cahier des charges qui me dit combien de posts je dois faire, qui je dois taguer, tout ça. Mais en effet, quand on commence à être aussi sponsorisé, eh ben on doit forcément un peu plus poster sur du matériel et dire ce qu'on utilise, et c'est pas quelque chose que avec lequel je suis très à l'aise, puisque c'est de la publicité et c'est toujours un peu compliqué, je trouve, d'en faire.
Oui, mais tu m'as aussi toujours dit que tu utilisais le matériel qui te convenait. Donc c'est pas non plus de la prostitution à utiliser
Bien sûr,
il y a quand même une approche sincère de ta part.
Bien sûr, et je mettrai jamais en avant des produits dont si j'étais convaincu qui ne sont pas adaptés. Ouais. Et là, par exemple, je veux dire, je viens de faire pour la première fois une course avec concrètement zéro pièce, équipement, vêtements, bagages, accessoires, tout ça. J'ai rien acheté en fait pour cette course-là. J'ai fait la course avec que des choses qui m'ont été données par des sponsors, et ça a très bien marché. Donc j'ai vraiment, moi, de mon côté, si j'ai des retours à faire sur le matériel qui m'a été donné, je peux faire que des retours positifs. Donc mais c'est juste que voilà, il faut réussir à opérer une transition de quelqu'un qui était indépendant pendant 4 ans et qui postait quand il avait envie de poster, ce qu'il voulait poster, pour dire grosso modo ce que je voulais, quoi. Ouais. De temps en temps, il faut que je fasse l'effort de me dire, ah oui, c'est vrai que cet équipement-là, on me l'a donné, et puis ce serait bien de montrer que je l'apprécie, d'être reconnaissant, et oui, forcément, il y a une démarche qui est un peu différente sur les réseaux sociaux. Après, j'espère juste que c'est pas mal perçu, quoi. J'essaye quand même d'avoir une approche qui est pas uniquement commerciale sur les réseaux sociaux. J'essaye déjà de faire passer des messages qui de raconter un peu ce que je fais, ma vie, de faire passer des messages qui me semblent importants, et après au milieu de ça, en faisant en sorte que ça prenne pas trop de place, je remplis mes obligations d'athlète sponsorisé qui se doit d'offrir une visibilité aux marques qu'ils soutiennent.
Qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire un truc. Oui, j'allais dire un truc. Bah, du coup, tu as changé de marque de vélo. Maintenant, c'est Black Bomb, je crois. C'est ça ?
C'est Bomb Track.
J'ai dit quoi ?
T'as dit Black Bomb.
Ah, je confonds avec un groupe. Pardon. ouais. Je confonds avec Black Bombay, voilà, mince. Donc c'est Bomb Track, ouais. Et le reste, c'est quoi, en roues, en vêtements, t'es passé sur quoi ? Parce que bon, on peut en
J'ai des roues Hunt.
Ouais.
Donc la marque anglaise qui est relativement récente, mais dont je pense elle est finalement assez connue, qui est connue d'ailleurs pour offrir des roues d'un super rapport qualité-prix.
Ouais.
Pour les pneus, j'ai des René Hers.
Ouais.
J'ai utilisé des René Hers Juniper Ridge sur la course en 650x48.
Ouais.
Et franchement, je suis parti avec une carcasse de pneus extra light. Donc vraiment les plus légers de la gamme chez René Hers, et ouais, j'ai eu zéro souci, quoi. Pas de crevaison, les pneus hyper confort. Il y avait pas mal d'asphalte, donc j'étais bien gonflé.
Ouais.
Et je les ai trouvés, mais vraiment nickel, quoi. Ouais, c'est la première fois que je les utilisais en course. J'avais utilisé des Hurricane Ridge en entraînement, en 700x42. Mais là, en course, j'étais vraiment bluffé. Je les ai montés en tubeless, montage hyper facile. Et après, pour les vêtements, c'est DHB. Donc DHB, c'est la marque maison de Wiggle, Et j'étais en tout mon kit, tout mon full kit, tout venait de DHB. C'est peut-être le changement qui m'a le plus angoissé.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander.
Que,
pour les fesses,
c'est le changement
fesses,
qui m'a
notamment.
Le plus angoissé. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Ouais. Faut savoir qu'en fait, moi, j'ai jamais avant la Hope, j'ai jamais couru en compète avec autre chose qu'un cuissard à sauce.
Ouais.
Et j'étais vraiment un aficionado de à sauce parce que j'ai jamais eu de problème à mon postérieur avec cette marque suisse. Donc, quand DHB est venu me voir et m'ont proposé de tester leurs produits, je leur ai dit ouais, ok, mais voilà quoi, ça a intérêt à vraiment marcher parce que je peux pas me permettre en fait de prendre un truc qui marche bien aussi important que ça.
Oui. Parce que là, ça détermine vraiment la suite.
Oui, voilà, non, c'est vraiment primordial. Il faut que les gens qui connaissent pas bien la discipline comprennent que la différence entre un bon et un mauvais cuissard, c'est un abandon.
Ouais.
C'est vraiment une partie de l'équipement qu'il faut absolument pas négliger. Donc là, ça m'angoissait un peu. J'ai eu tout un processus de test où j'ai utilisé le cuissard de manière assez intensive, sans le laver et tout. Et je suis parti en me disant que ça devrait le faire et je dois voir que ça l'a fait.
Ouais.
J'ai eu vraiment aucun souci. J'ai trouvé que le cuissard DHB était nickel. J'ai pas senti de différence avec le Asos. Et donc pareil, un bon changement.
Sur sur tout ton matériel, est-ce que t'as eu un délai de combien de temps pour tester et valider l'utilisation en course finalement?
Ah bah là c'est compliqué. En fait moi ce qu'il faut comprendre c'est que toutes ces marques là elles m'ont contacté en février après l'Atlas. Moi à ce moment-là mon calendrier c'était de recommencer à faire des courses off-road vers mai-juin. Donc ça voulait dire que mars-avril, ça allait être pour moi une période intensive de tests où tout ce qu'on me donnait, c'était le moment où voilà, j'allais partir en bikepacking solo et tester en conditions réelles ces nouveaux produits. Sauf que bah voilà, le confinement est arrivé et j'ai rien testé en fait. J'ai absolument rien pu tester à part en effet les vêtements. Je suis parti avec une lumière, une supernova que j'avais jamais testée. Les pneus René Hers, bah voilà, ils étaient tout neufs, hein, ils sortaient du plastique. C'était tout de suite dans le grand bain en fait. Donc c'était pas forcément rassurant, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que je pouvais de toute façon pas partir. On a été déconfiné le 11 mai, la limite des 100 km c'était 2 semaines plus tard, donc moi j'ai pas eu en fait une fenêtre assez grande pour partir faire 6-7 jours de voyage bikepacking intensif avec tous ces produits pour tester et après arriver sur la course en me disant ok bah ça je sais que ça marche, ça je le prends pas, tu vois. Donc c'était un pari, mais en même temps de temps en temps t'as pas le choix, hein. il valait mieux faire ça, partir avec tous ces trucs là tout cet équipement, ce matos que je connaissais pas et faire le truc plutôt que de me dire bon bah comme je connais pas le matos, tant pis, je fais pas de course.
Bon, finalement ça s'est pas si mal passé que ça, mais est-ce que ça a participé un petit peu à cette sensation d'être un petit peu en dedans justement, et ce dès le premier jour comme tu disais tout à l'heure?
Non. Mais c'est vrai que pour revenir à peut-être cette sensation de se sentir un peu moins concerné, d'avoir un peu moins la pression, je me suis dit bon bah voilà, tu pars avec du nouveau matos que tu connais pas, que t'as jamais testé, tu sais pas si ça va passer, si ça va marcher. Et puis je me disais bon, en même temps c'est pas grave quoi. Ce que je disais c'est pas grave parce que bah c'est déjà bien de pouvoir recourir. Il faut se rendre compte d'où on vient, hein, au mois de mars, quand les événements étaient enchaînés les uns après les autres, moi j'étais juste en train de me demander si j'allais pouvoir recourir cette année. Donc là, je me disais déjà, je suis content de pouvoir me réaligner sur une course. Et après, je me disais, je me mettais pas trop de pression en me disant, bon bah c'est une course de remplacement. Je suis content de la faire, mais si les choses se passent mal, s'il y a un problème avec une partie du matos que j'ai pas testé, qui s'avère ne pas être adapté et que bah voilà, je peux pas finir, je dois abandonner ou quoi, ce sera triste, mais ce sera pas dramatique. C'est pas comme axer sa saison sur un gros objectif. Je sais pas si tu te dis moi 2021 c'est la Silk Road et que c'est ton truc, que tu arrives sur la Silk Road et que au bout de 3 jours tu dois abandonner, là en effet tu vois tu peux être complètement effondré. Alors que voilà, moi j'avais déjà fait l'Atlas, j'arrivais là en me disant bah c'est bien, je peux recourir, et puis je me disais aussi que il allait de toute façon avoir d'autres événements dans l'année, et que si celui-là se passait pas forcément bien, c'était pas dramatique. Donc voilà, en effet, j'avais pas la même pression.
Comment tu vas faire, ou en tout cas est-ce qu'il y a une méthode, ou est-ce que tu as ta méthode pour te reconnecter à l'intensité de la course? Donc si t'es à la French Divide en août, comment tu vas procéder pour être vraiment à bloc, si on peut dire?
Bah écoute, je pense qu'il faut pas que je recommette cette erreur de regarder un peu les concurrents et d'observer leur temps et de me dire ok, Jochen l'année dernière il fait 4 jours et 10 heures, il est donc à 5 heures du record, je pense pas que ce soit une menace. Il faut pas que je réfléchisse comme ça, il faut que je garde conscience que dans notre sport, bah régulièrement il y a des gens qui arrivent qui n'ont pas un gros nom et qui font des grosses perfs. Si on regarde la Silk Road l'année dernière, au départ il y a James Hayden, il y a Lully Cox, il y a J. Peter Vary, et à l'arrivée c'est Jakub Sliakan qui gagne. Donc il faut que je garde ça à l'esprit, et il faut que je me dise que même si j'arrive par exemple sur une course et que le super favori c'est moi, et bah la vraie et la seule bonne manière d'envisager une compétition, c'est d'être immédiatement, dès les premiers kilomètres, extrêmement concentré, concerné, et ne pas se dire que de toute façon on est plus fort que les autres, et que si on commet des erreurs au début, c'est pas grave, parce que après on aura 3, 4, 5 jours pour les réparer.
Donc t'as un petit peu péché par excès de confiance finalement.
Oui, bien sûr, ouais.
Et c'est
je m'en cache pas, hein, j'en suis pas fier, mais je m'en cache pas. Je vais pas dire que en arrivant là sur la Hope, je me sentais pas favori. J'arrivais en me sentant favori, et en effet, en ayant regardé les temps de l'année dernière, je me disais bon bah voilà, l'année dernière ça se gagne en 4 jours et 10 heures. Moi je pensais être capable de faire moins de 4 jours, et je me disais ouais, si je passe moins de 4 jours, ça devrait le faire.
Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec Jürgen, c'est ça?
Jürgen. Non, j'ai pas eu l'occasion.
Ouais.
Puisqu'il est arrivé 2 heures avant moi.
Ouais.
Le finish, c'est une statue. Hein.
Bah oui.
On arrive, t'arrives à la statue, tu prends une photo, tu t'en vas, quoi. Tu restes pas 2 heures, surtout après ce genre de course où t'as quasiment pas dormi pendant 4 jours.
Bah oui.
Tu restes pas 2 heures à attendre le mec. Moi, quand je suis arrivé à la statue, il y avait la femme de Marcus qui était là à l'attendre. Mmh. Je suis resté 15-20 minutes avec elle, par politesse, et aussi le temps de trouver un point de chute. Mais ouais, en effet, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec Jochen.
Ça serait intéressant de savoir comment il a élevé son niveau justement d'une année à l'autre. Alors là, tu dis avoir comparé les temps, mais on peut peut-être difficilement comparer parce que les conditions sont, les conditions météorologiques peuvent être différentes, et on ne sait pas comment il a vécu les mois précédant la course l'an dernier. Donc, il est peut-être pas arrivé avec la même préparation, mais ça serait intéressant de savoir comment il a élevé son niveau d'une année à l'autre, et quand même une sacrée élévation de niveau. Parce que finalement, il a gagné quand même plusieurs heures.
Il a gagné pratiquement. Il a pas gagné un jour, mais presque, quoi.
Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour ça?
Je sais que déjà il avait forcément une motivation supplémentaire de par ma présence. Il a bien vu que je venais pour gagner, et il s'est dit que voilà, il n'allait pas
qu'il n'allait pas te laisser pouvoir, faire.
Bah oui, et que surtout si une nouvelle fois il mettait 4 jours à 10 heures, bah ce serait pas suffisant quoi. Et alors l'année dernière, si on regarde le déroulé de la course sur Track Leaders, on s'aperçoit qu'il a dormi toutes les nuits, qu'il s'est arrêté toutes les nuits. Je sais plus exactement combien d'heures il dormait, mais c'était probablement entre 2 et 4 heures, on va dire ouais, c'est probablement 3 heures de sommeil par nuit. Mm-hmm. Alors que là, il a quasiment pas dormi. Il me semble qu'il a dormi, qu'il voulait faire une sieste de 15 minutes la première nuit, et qu'il s'est endormi une heure. Mais sinon, moi je me souviens que bah pareil, j'ai pas ou peu dormi. Et le matin, je regardais, quand le jour se levait, je regardais les trackers en me disant est-ce que je l'ai rattrapé, et je l'ai jamais rattrapé parce que le mec ne s'arrêtait pas. Donc il a, voilà aussi comment il a élevé son niveau, c'est qu'il a compris que si il voulait aller plus vite que moi, et ben il pouvait pas se permettre de dormir 3 heures par nuit. Ouais.
Est-ce que après, ça va
c'est,
pas être...
c'est... Pardon?
Non, vas-y, je te laisse finir, vas-y.
Ouais, après c'est chapeau à lui parce que c'est pas facile à faire. Hein. Je peux moi pour l'avoir fait plusieurs fois, je peux vous assurer que pas dormir et après derrière rouler aussi longtemps aussi vite. Quand on l'a jamais fait, c'est compliqué. Il a vraiment tenu le choc. Donc, je sais pas exactement comment il s'est entraîné. S'il s'est entraîné exactement pour faire ça. Alors, je pense pas qu'il. Moi, je me suis inscrit très tard à la course. Donc, je pense pas qu'il ait vu mon inscription et qu'à partir de ce moment-là, il ait commencé à se faire des entraînements pour rouler 72 heures sans s'arrêter. Mais en tout cas, il avait cette stratégie là qui était à mon avis claire depuis le début de jamais s'arrêter, et il l'a exécuté parfaitement, et bravo à lui.
Est-ce que tu as la sensation d'avoir ouvert une brèche dans le manque de sommeil, et que finalement tu connais l'adage, tout le monde pensait que c'était impossible, il l'a fait parce qu'il ne le savait pas. Est-ce que là maintenant les gars vont pas se mettre à copier ta stratégie, et ça va devenir peut-être un, si t'es pas celui qui roule le plus vite, mais que des mecs qui roulent plus vite que toi se mettent à dormir aussi peu que toi, est-ce que ça va pas te compliquer un petit peu la tâche, ou est-ce que c'est juste une phase, ou est-ce que c'est vraiment trop dur?
Bah écoute, je pense que qu'on va le voir de plus en plus. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont regarder et qui vont se dire, attends, si lui il arrive à le faire, pourquoi moi j'y arriverai pas, et qui vont essayer et qui vont y arriver. Après, je pense aussi que tout le monde ne peut pas le faire. Et puis après, il faut voir aussi la longueur des courses. C'est-à-dire que sur une course de 4 jours, on peut le tenter, mais quand ça commence à être supérieur à 4 jours, sur des courses d'une semaine, tu peux pas passer une semaine sans dormir. Oui. Donc il faut trouver d'autres stratégies de sommeil. Mais oui, je pense que c'est choses qui étaient du domaine de l'exceptionnel. On va les voir arriver de plus en plus souvent. Et après voilà, ce sera à moi dans un cas de figure comme celui-ci d'élever mon niveau et de réussir à être encore plus concentré malgré le manque de sommeil. Pour rien lâcher, et de toute façon j'ai pas vraiment le choix.
Donc ça va nous amener des courses super intéressantes finalement à l'avenir, parce que on voit que bah jusque là le bikepacking c'était, il y avait un petit côté aventure, on voit que les mecs des fois renaclent un petit peu à dire qu'ils s'entraînent parce que a priori ça c'est pas compatible, mais on voit que de plus en plus les mecs s'entraînent, ont un préparateur physique. On va arriver sur un niveau de, pas de micro-ajustement ou de gains marginaux, mais pas loin finalement. Il va falloir optimiser tous les paramètres d'une performance.
Bah, je pense que les marges vont se réduire, hein. Très clairement, il y a de plus en plus de gens qui font du bikepacking, il y a de plus en plus de gens qui en font sérieusement, il y a de plus en plus de sponsors qui s'y intéressent, et forcément, les athlètes ont de plus en plus d'expérience aussi. Il y a 4-5 ans, au tout début de cette nouvelle pratique, les gens avaient peu d'expérience, on tentait des choses, ça passait, ça passait pas. Maintenant, voilà, on sait à peu près, c'est à peu près ce qui est possible et on s'entraîne pour ça. Après, je pense qu'il y aura toujours deux écoles, hein, à mon avis. Il y a un truc qui changera pas, c'est qu'il y aura toujours les gens qui roulent vite et les gens qui roulent longtemps. T'auras toujours des mecs qui vont dormir 4 heures par nuit et qui après le reste du temps vont bombarder. Et ceux qui vont préférer pas dormir et rouler un petit peu moins vite, quoi.
Ouais.
Mais oui, je pense que le niveau va se resserrer en tête et qu'il va y avoir des temps de plus en plus impressionnants et des différences entre premier, deuxième et troisième de plus en plus petites.
Est-ce que toi, dans ta pratique, là, je pense à Lael Wilcox, par exemple, qui a couru, et on voit depuis cette année, alors il y a aussi l'interruption des courses qui force à cette attitude, mais elle a une pratique plus touristique, on pourrait dire, ou sociale. Est-ce que toi, tu envisages un retour au voyage où finalement, là, pour le moment, t'as des sponsors parce que tu participes et éventuellement gagnes des épreuves, mais est-ce que tu pourrais pas aussi envisager une approche plus storytelling où tu pars en voyage et tu vas partager ton matériel de la même manière et c'est une autre manière de montrer d'honorer tes sponsors et de pratiquer ta passion tout simplement.
Oui, complètement. C'est vrai que
c'est quand même ton premier amour, le voyage.
Ouais, c'est mes racines, c'est sûr. Je ne renierai jamais. C'est vrai que j'ai laissé le bikepacking non compétitif un peu de côté ces derniers temps. J'ai juste fait un voyage en Colombie l'année dernière entre le Tour Divide et l'Inca Divide, qui était d'ailleurs extraordinaire. Si vous avez envie d'aller rouler dans un pays de dingue qui va vous offrir des ascensions monstrueuses dans des paysages à couper le souffle, allez en Colombie. En plus, c'est pas cher. Par contre, prenez un VTT parce que oui. C'est pas intéressant de faire. Faire de la route là-bas, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant là-bas, c'est faire du off-road et c'est vraiment à tomber par terre, quoi. Mais c'est vrai, j'ai eu moins l'occasion avec toutes les courses auxquelles je peux participer de faire du backpacking pour moi. C'est un peu dommage. C'est vrai.
T'as pas peur quand est-ce que tu je pense pas que tu en aies peur mais est-ce que tu y penses des fois à justement accumuler des courses que t'arrives pas à une certaine saturation finalement et une envie de revenir à quelque chose de plus simple
de plus simple je dois avouer que ces voyages solo backpacking mes défis perso ça me manque. Puisque c'est quand même généralement assez différent des courses. Mais les courses en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu accro, quoi. Parce que là, après la MR, je l'ai gagné, c'était incroyable, j'ai passé une course comme dans un rêve. Et la chose que j'avais envie de faire après, c'était de recommencer pour revivre ces mêmes sensations, tu vois. Et là, je fais la hope, je perds, je passe une course qui, pour être tout à fait honnête, était pas super agréable pour moi parce que je prends beaucoup moins de plaisir quand je suis pas devant. Mais le résultat, c'est que j'ai envie d'enchaîner pour gagner, quoi. Pour effacer la déception, je me dis le meilleur moyen d'effacer la déception, c'est de passer à autre chose, d'aller sur une autre course et cette fois-ci de faire premier. Donc dans tous les cas de figure, je fais une course et ce que j'ai envie de faire après, c'est une autre course en fait.
Et la French Divide, c'est pas une course. Je viens de repenser à ça, mais techniquement, c'est pas une course. Alors évidemment, on va tous regarder qui est devant et en tout cas le classement, mais officiellement, c'est pas une course. Est-ce que ça va pas gâcher un petit peu le plaisir de dire juste j'ai fait le meilleur temps sur la French Divide, mais techniquement, je l'ai pas gagné parce que techniquement, c'est pas une course.
Ouais, mais c'est comme l'Italy Divide en fait. L'Italy
Ouais.
Divide, je pense qu'ils ont les mêmes lois qu'en France.
Ouais.
Et que, donc officiellement, l'Italy Divide n'est pas une course. Après, voilà,
Mais dans la tête des coureurs, c'en est une.
c'est des distinctions qui, je pense, n'intéressent que les législateurs. Parce que je peux t'assurer que les mecs qui sont au départ, j'ai jamais fait la French Divide, mais les mecs qui sont au départ de l'Italy Divide, pour eux, c'est pas un ride, hein.
C'est une course. C'est la course.
Ouais. Donc moi, enfin voilà, je ne fais pas ces distinctions-là. Pour moi, c'est une course.
Ok.
En tout cas, je vais la courir comme une course.
Est-ce que tu as observé les meilleurs temps sur les éditions précédentes et est-ce que tu t'es d'ores et déjà donné un objectif en discutant
non,
avec
non,
Sam?
Non, je non pas encore. Je connais pas du tout les temps Je sais pas, mais c'est comme après les records, tout ça. Quand tu vas sur une course pour battre un record, c'est différent de quand tu vas sur une course pour gagner. Enfin, je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs en fait.
Qu'est-ce qui est
donc,
différent
déjà,
entre les deux? Entre gagner et battre un record, quelle distinction tu ferais?
Disons que je trouve. Si tu arrives sur une course en te disant oui bah moi je viens pour battre le record tu t'arrives en disant que tu te bats contre toi-même tu vois et je trouve que c'est un peu manquer de respect à tes adversaires puisque en fait si c'est une course déjà à la base ce que tu dois faire c'est les battre eux
ouais.
et après si tu le sens si t'en es capable et si les conditions sont présentes, s'il y a un record, tant mieux. Mais il faut déjà commencer par respecter ses adversaires et respecter ses adversaires, c'est courir contre eux et pas courir contre quelqu'un qui a fait un temps, une année où t'étais pas là. Les mecs qu'il faut regarder, c'est ceux qui sont sur la ligne de départ en même temps que toi.
Bah tu sais quoi, Sofiane, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Sur cette belle leçon. Bah écoute, merci encore une fois. Enfin, là, je trouve qu'on a été très bon parce qu'on a fait que 45 minutes. Donc,
ouais.
Je trouve qu'on progresse de petit à petit. On s'améliore quand même. Donc, c'est très très bien. Bah merci encore une fois pour la disponibilité malgré la fatigue, malgré la précipitation d'après épreuve finalement. Et puis, à très bientôt. Je t'épargne la minute de solitude, sauf si t'as envie de dire un truc.
Ah oui c'est vrai j'ai oublié cette minute de solitude je sais pas si je vais tu sais quoi les gens qui ont suivi mes stories Instagram
ouais.
Pendant l'Atlas étaient très contents que je chante du Lionel Richie dans les montagnes du Maroc
ouais.
Les gens qui ont suivi mes stories pendant la Hope étaient très déçus que je ne chante pas pendant la course. Mais bon, en même temps, il faut comprendre que c'était pas la même configuration. J'étais en train d'essayer de rattraper un mec que je n'arrivais pas à rattraper. Donc, j'avoue que j'étais pas forcément d'humeur.
Ouais, t'étais pas d'humeur Jacques Brel.
Et c'est dommage parce qu'en plus, le finish, comme on le sait, c'est la statue de Freddie Mercury à Montreux.
Ouais.
Donc, j'avais une super occasion de chanter du Queen et je l'ai pas prise. Ce qui est en temps normal, parce que je devais rester concentré. Donc, si tu veux me laisser, je pense pas que je vais vous en mettre pour une minute parce que vous êtes gentil, vous méritez pas ça.
Moi, je te laisse faire ce que tu veux. Tu chantes Queen si ça te chante. Notez la qualité du jeu de mots. J'en suis pas fier de celui-là.
Ouais, non, moi, je pense que tu devrais pas en être fier. Donc, tu fais bien.
Non, il faut pas. Donc je te laisse. Merci. À très bientôt. Bon repos et bonne chanson. Merci Sofiane. À bientôt.
Salut Richard. À bientôt. Qu'est-ce que je vais chanter? Ah ouais, je crois que je voulais chanter Bohemian Rhapsody. En fait, comme c'est genre trois ou quatre chansons en une chanson, je sais pas par où commencer. Je pense que ça fait I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? What's up with the lightning? Galileo, lightning, we Galileo, 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 Figaro, Magnifico. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Je pense que c'est, ouais, c'est une des parties de la chanson. Je suis désolé. J'espère que ça vous a au moins fait rire. Et à bientôt. Ciao.